Oui, quand même. Hein. J'avais un examen de grec hier soir, donc j'ai étudié toute la journée. Oui, donc. Ouais. On a commencé à prendre l'avance, puis ce qu'on faisait dans la bonne nouvelle en janvier. Ouais. Ouais, je pense que je m'attrape tout le temps. Ben ouais. Ouais. On a tout pogné la COVID il y a deux semaines. Sauf Evelyne, je pense. Là, ils sont partis. Eux autres, il y avait un voyage organisé ensemble. Mais ils vont bien. Là. Il y a juste moi qui étais malade. C'est correct, ils sont tombés malades. Comment? Ah, 10 jours. Ouais. On est parti d'aller dans l'avion ensemble. On s'est préparé ça plusieurs années, c'est prévu. Là, ils sont mieux, ils sont pas au chaud. J'étais malade, là, j'avais peur qu'ils soient malades, ils partent malades, mais bon. Ouais. Ben oui, je vais faire mon passé le matin, là. Ben oui. OK. J'ai vu de me toucher, là. J'ai vu d'aller me toucher, là, pour dormir dans un somme, là. Bon, pas honte, là.
On va donner la parole à Martin tout de suite, en étant donné qu'on...
Parler à mes filles. Bien, bon matin à tous.
Bon matin.
Je vais me garder une petite pastille. Ça va m'aider à ne pas tousser, j'espère, de ne pas tousser. Hier, j'ai presque appelé pour dire « oublie ça, je ne pourrais pas ». Je toussais beaucoup hier soir. Ça va mieux. Mais c'est ça, je vais faire mon possible pour. On va parler ensemble de Hébreux encore. La dernière fois, je vous avais amené dans le livre d'Hébreux. C'est ce que je vais faire encore ce matin. Et on va lire les versets dans le chapitre 6, versets 13 à 20. Et le titre que j'ai donné au message, c'est Une encre pour notre âme. Une encre, les encres de bateau, une encre solide pour notre âme. Alors, on va lire Hébreux 6, versets 13 à 20 ensemble. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On va prier, Seigneur. Bien, Seigneur, je te demande de bénir cet enseignement, ce texte qu'on va regarder ensemble. Je prie que tu puisses nous parler, nous faire du bien, Seigneur, parce que c'est ta parole. Ta parole, elle est vivante, efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranche. Donc, Seigneur, viens vraiment nous saisir ce matin, nous faire du bien avec les vérités qu'on va voir ensemble. Amen.
Amen.
J'ai commencé des études l'année passée, vous savez, j'en ai parlé, puis l'année passée, quand il faut que je paye ma session, j'arrive en ligne, puis je vois qu'il y a des frais énormes payés avec une carte de crédit. Je pense que c'était 300 ou 250 US. De frais pour utiliser le service. Okay. Mais là, j'avais comme pas le choix. Là, j'étais déjà en retard. Puis, fait que j'ai payé comme ça. Fait que là, la session qui arrive, je dis là, je me ferai pas avoir. Je paierai pas en ligne. Je vais envoyer un chèque. Alors, je m'envoie à la caisse. Je fais préparer une traite. Une traite, parce que c'est en US. Puis là, c'est une traite bancaire qui appelle. Et là, ça coûte tant avec le taux de change. Elle me fait tout ça officiel, j'ai tous mes papiers, je m'en vais à la poste. Et là, à la poste, je dis, je vais envoyer ça, je veux que ça soit recommandé, je veux une signature là-bas. Écoute, je me blinde, là. C'est quand même, c'est pas de l'argent, mais je me blinde. Fait que je fais un suivi, je fais tout comme il faut. Et là, à un moment donné, ça faisait 2 semaines et demie, là, j'aurais écrit, avez-vous reçu mon chèque? Elle dit, non, on n'a rien reçu. Là, j'appelle à Poste Canada. Là, ils n'ont rien reçu. Mon numéro de suivi, c'est ça. Pouvez-vous me dire c'est rendu où? Là, elle dit oui, ils l'ont reçu. Je dis, pouvez-vous m'envoyer la preuve, s'il vous plaît? Fait que là, on m'envoie la preuve. Ben, c'est telle personne qui a signé tel jour. Là, je rappelle à l'école. Je dis, ben oui, vous l'avez reçu. C'est telle personne qui a signé tel jour. Elle dit oui, on a une personne qui s'appelle comme ça, mais à l'autre place, mais on n'a rien reçu quand même. Et là, je dis, ben, pouvez-vous vérifier? Après une semaine, ça tombe des vacances, ils n'ont rien trouvé. Ils ont perdu. Ils ont perdu ma traite. Ils ont perdu mon... Et là, je dis, je fais quoi? Moi, là, je retourne à la caisse. Elle dit, ouais, monsieur, elle dit, ça va être difficile, là, parce que c'est en argent US, puis c'est plus nous qui gérons ça. Elle dit, je sais pas comment ça va marcher, là. Je dis, ben là... Mon argent est quelque part, tu sais, dans un nuage à quelque part, parce que, tu sais, toi, dans mon compte, elle n'est pas dans leur compte. Elle doit flotter. J'ai dit, moi, je veux qu'elle revienne dans mon compte. Elle dit, ouais, elle dit, je vous garantis rien. Je garantis rien. Hein. Donc, finalement, je m'en vais chez nous, j'attends. Puis elle me rappelle, elle dit, oui, c'est correct, monsieur, ils ne l'ont pas encaissé. On va vous retourner votre argent. Mais là, elle me retourne l'argent, mais avec le taux du jour, qui est différent. J'ai perdu quand même plus que ce que j'aurais payé en frais avec une carte de crédit. Et là, mais pour pas revivre ça, j'ai décidé de retourner payer avec une carte de crédit en ligne et payer les frais. Fait que tout ça pour vous dire que je me suis blindé. J'ai tout pris les précautions nécessaires. Puis au final, j'ai payé plus cher que ce que j'aurais payé au début si j'avais juste été avec ma carte de crédit. J'ai même pas la garantie, même en prenant des garanties, puis en me blindant que ça va se rendre à l'autre bout correct. Et j'étais frustré. Vraiment, j'étais frustré. Puis je raconte ça parce que ici-bas, on se protège comme ça. On prend les assurances. On fait des contrats à toute épreuve. On se blinde, hein? On dit ça souvent, on s'est blindé. Mais on n'est jamais, jamais 100% en sécurité. Puis ça, je viens de le vivre en me blindant et en ayant perdu un montant à cause de ça. Puis vous connaissez sûrement des histoires d'horreur, de contrats, de personnes qui ont vécu puis qui avaient des choses, ils tout étaient de leur bord puis ils ont perdu au final parce qu'il n'y a rien de certain ici-bas sur la terre. Il y a toujours une faille, il y a toujours une clause en petit caractère, un imprévu, une manière de briser le contrat. Puis en pensant à ça, à nos assurances terrestres, faillible, je méditais sur notre espérance céleste qui est infaillible. Moi, ça m'a encouragé le texte. J'aimerais ça que ça vous encourage comme ça m'a encouragé. Une espérance céleste qui est infaillible, qui est sûre, qui est solide. C'est pour ça que j'ai appelé ça une ancre pour notre âme. Il n'y a rien de certain dans notre monde. Mais il n'y a rien de plus certain que notre espérance céleste. À travers les maux terrestres qu'on vit, les épreuves qu'on expérimente, on a une espérance qui est infaillible. Et ça m'a rappelé un texte dans Romains. Je vais vous inviter à tourner aujourd'hui dans quelques passages. Romains 5, les versets 3 à 5, que j'aimerais qu'on lise ensemble. Ça m'a rappelé ce texte-là que j'avais moi-même étudié quand on peut dire Romain à l'Assemblée, parce qu'on a étudié Romain en systématique. Et ce texte-là m'avait tellement encouragé. Romains 5, verset 3. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une espérance qui ne trompe point. On se fait avoir dans le monde. On peut tout raconter quelque chose qu'on s'est fait avoir, mais on ne se fait pas avoir avec le Seigneur. On a une espérance qui est certaine, qui ne trompe point. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde trois raisons qui expliquent pourquoi notre espérance est une ancre sûre et solide pour notre âme. Le but du texte, parce qu'on se pose toujours la question quand on étudie un texte, c'était quoi l'intention de l'auteur? Qu'est-ce l'auteur, quand il écrivait, il avait comme intention, comme but? Il y a un sens. Je t'écris une lettre, bon, il y a sûrement plusieurs vérités qu'il veut donner, mais quand tu écris quelque chose, c'est parce que tu as un sens, tu as une idée à l'arrière de la tête, tu veux proclamer ou transmettre un certain message à des personnes, c'est quoi l'idée? C'est ça le but d'une exposition des Écritures, d'aller chercher l'idée de l'auteur. Puis je crois que cette section-là ici qu'on regarde, le but que l'auteur avait, c'était de donner un puissant, puis il dit même dans le texte, un puissant encouragement à persévérer dans ce monde qui est incertain, parce que notre espérance, elle est certaine. Et il le démarque en nous parlant de la promesse de Dieu, le serment de Dieu, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en commun, ces trois choses-là? De Dieu, de Dieu, de Dieu. Tout ça repose sur la personne de Dieu. Promesse de Dieu, serment de Dieu, Fils de Dieu. Il n'y a rien ni personne de plus grand que Dieu. Hein? On dit que Dieu est omniprésent. Ça veut dire partout, présent. On dit qu'il est omniscient, il connaît tout. Et on dit qu'il est aussi omnipotent, il peut tout. Mais est-ce que Dieu peut tout faire? Je ne sais pas trop. Est-ce que Dieu peut tout faire? Bien, la réponse est non. Puis je suis content que Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas se dénaturer. Dieu est amour, il ne peut pas cesser d'aimer. Ça ne peut pas que Dieu cesse d'aimer. Donc, il ne peut pas tout faire. John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, il dit « Dieu est amour, s'il cesse d'aimer, il cesse d'être. » Il ne peut pas cesser d'être aimé. Dieu est saint. Il ne peut pas cesser d'être saint. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas être plus saint. Dieu est juste. Il ne peut pas cesser d'être juste. C'est impossible. Dieu ne peut pas se contredire. Vous avez peut-être déjà entendu, ouais, Dieu, est-ce que Dieu est capable de faire une roche tellement grosse qu'il ne peut pas la lever? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'argument-là un peu idiot à mon idée, parce que c'est une contradiction que Dieu crée une roche tellement grande qu'il ne peut pas la lever. C'est une contradiction en elle-même. Dieu est infini. Ça n'existe pas, une roche tellement grosse que Dieu ne peut pas la lever. C'est impossible. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dessiner un carré rond. Il ne peut pas faire une contradiction avec ce qu'il est. Il ne peut pas mentir. Il est obligé d'être fidèle à sa parole. Et c'est sur ça qu'on va baser ce qu'on va regarder ce matin, les trois points. Il ne peut pas mentir. Il est obligé d'être fidèle à sa parole. Les trois raisons qui expliquent pourquoi notre espérance est une ancre sûre et solide pour notre âme. La première, c'est la promesse de Dieu. Il a fait une promesse. Ce n'est pas une promesse en l'air. Moi, j'ai souvent fait des promesses, peut-être pas souvent, mais j'ai fait des promesses en l'air à mes enfants. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de dire, hey, si tu n'arrêtes pas ou si tu ne fais pas ça, tu ne viendras pas au party de Noël chez mamie. Voyons donc. Ça, c'est des promesses en l'air. On dit des choses qu'on n'a pas l'intention d'accomplir dans le fond. On fait juste pour la crainte. Des promesses en l'air, Dieu ne fait pas ça. La promesse de Dieu, on le voit au verset 13 à 15. Lorsque Dieu, on retourne dans Hébreu, là, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. On va aller voir la promesse. Je vous ai dit qu'on va fouiller un peu. Vous pouvez garder votre doigt dans Hébreu, mais Genèse. On retrouve la promesse en Genèse 12, versets 2 à 3. Genèse 12, versets 2 à 3 nous dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, il y a quatre éléments. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je vais bénir ceux qui te bénissent et je vais maudire ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La quatrième promesse, c'est celle qui sera jusqu'à nous. La bénédiction offerte à toutes les familles de la terre à travers Abraham. Cette quatrième promesse sera à nous par Jésus-Christ. On est béni en Jésus-Christ qui est le seed, la progéniture d'Abraham avec la nation d'Israël, David et un jour éventuellement Jésus est venu. Mais cette quatrième promesse-là repose sur la première. Je vais faire de toi une grande nation. Hein. On ne peut pas avoir Jésus qui va venir s'il n'y a pas de grande nation. Mais le problème, c'est qu'Abraham, il n'y a pas d'enfant. Dieu promet quelque chose à Abraham et il y a une petite contradiction dans l'air qui est là. J'ai pas d'enfant, puis en plus, sa femme est stérile. C'est intéressant comment Dieu, souvent, il promet des choses, puis il y a de la contradiction dans l'air. Il y a combien de femmes stériles à qui Dieu a promis des enfants? Dans la Bible, il n'y en a pas juste une. Donc, il semble y avoir une contradiction avec les événements de la vie d'Abraham puis la promesse de Dieu. Alors, Dieu pourvoit un fils, on le sait, sa femme est enceinte, Isaac, la promesse peut s'accomplir. Mais Dieu lui demande d'aller le tuer, d'aller le sacrifier. Et là, on connaît toute l'histoire, on connaît la fin, mais Dieu demande de sacrifier parce que Isaac, il semble, ça semble dépendre juste de lui que maintenant je vais pouvoir avoir ma nation, puis mes enfants, il est là, là, Isaac, puis tu me demandes de le sacrifier. Comment est-ce qu'on peut avancer dans la foi avec une apparence de contradiction aussi flagrante que ça? Il y a une promesse qui est là, pas d'enfant, stérile. Ah, finalement, wow, Dieu béni, va le sacrifier. Mais là, Seigneur, j'ai une promesse que tu vas faire de moi une grande nation. Comment est-ce qu'on peut avancer dans la foi quand Dieu nous demande des choses, puis il y a de la contradiction dans nos yeux, dans nos têtes, dans notre pensée? Le verset nous dit qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et on sait que c'est par la foi qu'Abraham a persévéré. Il a cru aux paroles de Dieu, puis il a persévéré. Puis ça, c'est super important pour nous aussi, pour nos vies, à comprendre qu'Abraham a compris que la promesse de Dieu ne dépendait pas de lui, ne dépendait pas non plus de son fils, mais dépendait uniquement de la parole de Dieu. Ça, c'est important de se rappeler. La promesse ne dépend pas de moi, de mes capacités, de ce que je peux accomplir ou de Isaac pour ce qu'il y a la promesse. Ben oui, c'est sûr, la promesse, ça dépend d'Isaac. Si tu enlèves Isaac, il n'y a plus de promesse. Non, ça ne dépend ni de lui, ni de l'enfant. Dieu le dit, Dieu va l'accomplir. Le plus important, ce n'est pas la quantité de notre foi, mais l'objet de notre foi. Là, je vous pose une question. Est-ce que c'est la foi qui sauve? Oui, non?
Non?
Non. On pourrait dire oui, c'est la foi qui sauve. C'est par la foi qu'on est sauvé, mais ce n'est pas la foi qui sauve. C'est l'objet de notre foi. Parce que moi, je peux avoir la foi dans le Père Noël ou dans n'importe quelle autre patente, puis jamais être sauvé. L'objet de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'objet de la foi d'Abraham était Dieu. Ce n'est pas la quantité de foi qui est importante. C'est en qui j'ai placé cette foi qui est importante. Dans le Dieu créateur, le grand Dieu tout-puissant. Puis même si ce que tu m'as dit ou ce que ça a l'air impensable, ben, Seigneur, je mets ma foi en toi. J'ai de la misère, mais je la mets en toi parce que c'est le grand Dieu qui peut tout. Abraham a cru à ce que Dieu a dit. Abraham a mis sa foi en Dieu, dans sa promesse. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est suffisante. Parce que moi, quand Dieu me dit quelque chose, c'est suffisant. Et j'imagine que pour vous aussi, Dieu, quand Dieu parle, c'est suffisant. Mais Dieu va plus loin. Et il fait un serment. Il fait un serment parce que c'est ce que nous, on fait, les êtres humains. Nous, les êtres humains, on ne se fait pas confiance entre nous. On fait des serments, on fait des contrats parce qu'on ne peut pas se fier aux paroles des autres. Et c'est la deuxième raison qui explique pourquoi notre espérance est une ancre sûre et solide pour notre âme. Le serment de Dieu. Verset 16 à 18 de Hébreux nous dit ceci. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu manque, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je ne sais pas si les jeunes, avant qu'ils s'endorment, je vais leur poser une question ou deux. Est-ce que vous jurez à l'école encore? Je te crois pas, hey, je te le jure. Ça se fait-tu encore dans les classes, ça? Là, je te crois pas, non, je te le jure sur la tête de mon père. Vous faites pas ça? Moi, quand j'étais jeune, on jurait tout le temps comme ça. Qui a déjà juré de même à l'école, là, quand vous étiez plus jeune? Ah, ça se faisait, hein? Ouais. Bon, vous autres, ouais, moi, les jeunes aujourd'hui. Mais on faisait ça, on jurait sur la tête. Tu sais, de ma mère, puis là, si tu voulais être plus sérieux, tu prenais le père, parce qu'on pensait que le père est sur la chaise de mon père. Puis quand on voulait aller encore plus loin, là, on allait jurer sur la tête d'un défunt, fait que, tu sais, sur la tête de mon grand-père qui est mort. C'était encore plus solide. Parce que c'était encore plus solennel, tu sais, c'est mon grand-père, hein, il est mort. Fait que je te jure sur la tête de mon grand-père qui est mort. Puis des fois, on allait même jusqu'à dire, je te jure sur la tête de Dieu. Parce que là, on ne pouvait pas aller plus haut que ça. Mais c'est ça l'idée du texte ici. Tu jures par quelqu'un de plus grand que toi, de plus important que toi, qui a plus de valeur que toi. Ma mère, mon père, mon grand-père qui est mort, puis Dieu, mais on ne peut pas aller plus haut. Dans le monde gréco-romain qu'on retrouve ici, on utilisait les serments à la cour, devant un juge. Ça avait extrêmement de valeur quand on faisait ça devant un juge. On jurait par quelqu'un qui était plus grand que soi, plus élevé que soi, mais ça l'offrait une garantie légale. Ça donnait vraiment une garantie légale quand on faisait un serment comme ça. Alors, si le serment des hommes est une garantie qui met fin aux différends, aux chicanes, qu'en est-il du serment du Dieu de l'univers? Comme Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, ben, il jure par lui-même. Il fait un serment par lui-même. Et le but du serment, c'est d'encourager fortement les héritiers de la promesse pour leur montrer que sa parole, la parole de Dieu, sa propre parole, elle est irrévocable. Ses desseins ne changent pas. Et les deux choses, on peut se poser la question, c'est quoi les deux choses immuables? Et j'ai lu toutes sortes d'idées. J'ai même pas le goût de vous parler de toutes les idées. C'est quoi les deux choses exactement? Moi, je crois simplement que c'est sa promesse et son serment. Les deux choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente. Sa promesse, on parle de l'alliance abrahamique, quand Dieu a promis à Abraham, et son serment, qui fait dans le contexte de cette même alliance-là. On retourne dans Genèse 22. On va aller le voir quand il jure par lui-même. On va voir qu'est-ce que Dieu dit exactement. Genèse 22, versets 16 à 17. Alors Dieu dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, quand Abraham est allé pour sacrifier Isaac, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, les deux choses immuables se réfèrent à cette alliance abrahamique. La promesse, elle va mettre l'accent sur le contenu, la promesse. Puis le serment, bien, il met l'accent, lui, plus sur l'assurance que Dieu va l'accomplir. Dieu, c'est intéressant, Dieu, il dit une promesse, mais Dieu veut nous rassurer. Moi, ça me fout l'encourager, ça. Dieu promet que sa parole, c'est suffisant, mais il va plus loin parce qu'il veut nous rassurer. Parce qu'on est comme ça, on est stressé, on est inquiet, on est ici, on doute. Sa parole est suffisante, mais il veut nous... Moi, ça m'a fou l'encourager, ça. Dieu a voulu nous donner une assurance qui ne change pas d'idée, que sa parole est immuable. Il veut nous donner une paix. Puis c'est quelque chose que j'expérimente souvent, la paix de Dieu dans mes temps de prière le matin. J'ai souvent des moments d'angoisse, de stress. La vie, elle demande beaucoup. La vie aussi à servir Dieu demande des fois pas au-delà de ce qu'on est capable, mais beaucoup, puis c'est stressant, il y a beaucoup de choses à penser. Puis des fois, surtout quand l'heure de la bonne nouvelle, on fait des tournages, puis ça s'en vient. À chaque fois que je suis à deux semaines, je commence à angoisser, là. Je commence à stresser, souvent les matins. Ça m'est tellement arrivé souvent de juste demander au Seigneur de venir me faire du bien, de venir me rassurer, de venir... Puis j'expérimente souvent une paix quand je demande au Seigneur de venir me faire du bien dans ces moments d'angoisse, de peur, d'inquiétude, de doute. Mais Dieu, il prend plaisir à nous rassurer. Puis quand on voit dans ce texte-là que sa, sa parole était suffisante, mais il va plus loin, puis il fait ce serment-là pour nous rassurer. Moi, ça me montre que Dieu, il prend plaisir, il veut venir nous rassurer, il veut venir nous faire du bien. Puis moi, je vous encourage à lui demander, quand vous êtes dans des moments comme ça, de dire, « Seigneur, viens me donner cette paix-là que tu promets, qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. » La troisième raison qui explique pourquoi notre assurance est une ancre sûre et solide, c'est le Fils de Dieu. Et les derniers versets, je pense que c'est 19 à 20 de Hébreux 6, il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, selon ce verset-là, on est déjà de l'autre côté du voile. On est déjà dans la présence de Dieu. On a déjà accès à la présence de Dieu. Le chemin est ouvert à cause de Christ. On a déjà accès au Père à cause du sacrifice de Jésus à la croix. C'est lui qui a tracé le chemin. Puis moi, je me rappelle, quand on lit les Écritures, que le voile, quand il s'est déchiré de où à où? Du haut en bas. C'est ça, Evelyne, bravo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est comme si, moi, j'ai comme l'image de Dieu qui est dans le ciel, puis qui envoie ses mains, qui prend ses deux mains, là, puis qui prend le haut du voile, parce que c'est lui qui a accès, là. Puis que là, il déchire ça, puis on a maintenant accès à sa présence à cause du sacrifice de Jésus. Une espérance qui est ancrée, elle est solide, elle est sûre. Cette espérance-là nous donne aussi une stabilité dans la vie. Ça ne veut pas dire que ça va toujours aller bien. On le sait, ça va toujours être facile. Mais on va toujours avoir un fondement solide. Ce n'est pas basé sur nous-mêmes, hein. C'est sur Jésus-Christ. Puis ça me fascine comment les gens basent leur éternité sur leur propre personne. Lors de la bonne nouvelle, on fait des vox pop. Vous savez, c'est quoi le vox pop? On va dans la rue, on pose des questions. Puis une des questions qu'on a posées, j'ai été fasciné de voir les réponses. Croyez-vous avoir besoin de Dieu pour réussir votre vie? Et une personne a dit, pas du tout. Elle a répondu vraiment, là, pas du tout. Tu sais, elle n'a pas comme, Non, aussitôt qu'elle a fini, la question était finie, c'est pas du tout. J'ai besoin des gens qui m'entourent, en qui j'ai confiance, et de moi. J'ai pas besoin de Dieu. Une autre, elle a dit, non, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir ma vie, seulement avoir confiance en moi. Et honnêtement, j'ai dit, mais il y a beaucoup de monde, hein, c'est ça. Confiance en moi. Il faut que je le sente. On est tellement déçus du monde qu'on met Dieu dans le même paquet, puis on veut rien savoir, puis on se mouche. J'ai confiance en moi, en mes capacités, en mes moyens. Mais personnellement, moi, je ne souffre pas d'un manque de confiance en moi, mais je préfère bâtir ma vie sur quelqu'un de meilleur que moi. Surtout quand on parle des questions existentielles. Où tu vas après la mort? Ah, ben moi, je pense que... Toi, tu penses que... Ben, ouais, c'est quoi, là? Je veux dire, hein, tout le monde peut filer que je pense que peut-être c'est... Oh, tu sais, je veux dire... Je vais-tu m'appuyer sur ma connaissance à moi pour dire qu'est-ce qu'il y a l'autre bord puis vivre ma vie en disant, oh, regarde... Voyons, non, mais je trouve ça vraiment... En tout cas, moi, j'ai aucunement confiance en moi pour répondre à ces questions existentielles-là. Je comprends pas comment les gens peuvent répondre aussi rapidement puis avoir confiance autant en leur réponse de qu'est-ce que je pense qu'il y a l'autre bord. Tu te fies sur quoi pour penser ça? Puis quand on demande ça, sur quoi tu te bases? Les gens, ils n'ont pas de réponse parce qu'ils n'ont aucun fondement pour répondre. Ah, l'autre bord, je pense que c'est ça. Ou je pense qu'on. Une madame, il avait dit, ah, moi, je pense qu'on notre énergie s'en retourne. Puis une autre a dit, là, on se réincarne. Puis il disait toutes sortes de choses, mais sur quoi tu te bases? C'est tout sur du feeling intérieur. J'ai aucune confiance en moi pour répondre à ces questions. J'aime mieux me baser sur la parole de Dieu qui nous donne les réponses à ces questions-là. Et la Bible ne nous encourage pas de se confier dans l'homme. Jérémie 17, 25 nous dit « Ainsi par l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » J'avais le goût de dire ça à l'émission quand on enregistrait, de citer le verset, mais ça va peut-être être un petit peu trop raide pour le monde à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait je me confie en moi, puis j'avais le goût de dire ça au retour du Vox Pop. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais c'est vrai. On peut bâtir notre vie sur nous-mêmes ou sur n'importe quoi d'autre. Matthieu 7, on va lire une petite histoire ensemble. Ça va être la dernière fois que je vous fais tourner. On achève, c'est... Il y a même une chanson qui a été écrite sur ça. Je pourrais demander aux enfants de venir nous la chanter après s'ils la connaissent. Je vous le dis, vous allez venir en avant. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et on sait que c'est Jésus qui parle, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Tout ce qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu est bâti sur le sable. Puis tout ce qui est bâti sur le sable est fragile. Mais si on bâtit sur Dieu, sur ses promesses, sur sa parole, sur son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre vie va être à toute épreuve. Notre maison qui représente notre vie va être... Notre vie représentée par la maison va être à toute épreuve. Notre ancre, elle va être solide. L'ancre de notre âme, elle ne pourra pas plier en deux ou se tordre ou casser quand elle va être soumise à une tension dans la vie. Elle va être sûre, elle va être solide, elle va rester ancrée dans le fond durant la tempête. Sûre et solide, c'est intéressant parce que ces deux adjectifs sont pratiquement des synonymes qui décrivent notre espérance. Sûre et solide. Alors, je vous répète les trois raisons qui expliquent pourquoi notre espérance est une ancre sûre et solide pour notre âme. La promesse de Dieu. Dieu l'a dit. Il a promis. Et Dieu est allé plus loin. Il a fait un serment pour qu'on puisse être rassuré. Et le Fils de Dieu qui a tout accompli pour nous donner accès au Père. Et tout ça repose sur Dieu, sur la personne de Dieu qui ne peut pas se dénaturer, qui ne peut pas se contredire, qui ne peut pas mentir. Alors, tout ça nous donne l'assurance de notre salut. Et moi, ça m'a encouragé de continuer malgré les bouts difficiles de la vie, parce que notre foi repose sur Christ qui a tout accompli, qui est une ancre solide. On prie en terminant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli. Merci, Père, parce que ta parole est suffisante, mais merci parce que tu es allé plus loin au-delà en faisant ce serment pour nous rassurer. Et on sait que tu ne peux pas mentir. Père, on veut te demander de venir nous rassurer, chacun d'entre nous, nous faire du bien. On a besoin d'assurance souvent dans nos vies parce qu'on doute. Des fois, on a peur, on est stressé avec ce qui est devant nous. Alors, on a besoin de cette assurance, de cette paix aussi qui surpasse toute intelligence. Puisses-tu nous faire ressentir la paix à chaque jour de nos vies? Puis, merci pour l'assemblée ici à Sainte-Marie. Je prie que tu bénisses chaque personne, que tu bénisses le témoignage aussi autour, que tu puisses attirer d'autres gens à toi. Merci pour le voile aussi qui a été déchiré, l'accès qu'on a à toi par Jésus. C'est en son nom qu'on prie. Amen.
Amen.
Bon, les enfants, ils vont-tu nous chanter le feu sur le sable? On la connaît. All right.